aujourd'hui, je vous présente la famille d'Yvonne Sénéchal. Peut-être un nom qui vous sonne des cloches et ce serait bien normal parce que Yvonne, elle est la vice-présidente des opérations chez Vues et Voix. Vues et Voix qui est l'organisme qui chapeaute Canal M. Donc, si on comprend bien, Yvonne, c'est comme un petit peu ma patronne. Donc, je vais être meilleure que d'habitude aujourd'hui. Yvonne, c'est aussi la maman de deux grands jeunes hommes, des belles pièces d'hommes, des grands colosses, Paul-André, 35 ans, et Vincent, 33 ans. Et cette semaine, comme à l'habitude, vous commencez à connaître le concept. Je me suis inspirée du parcours d'Yvonne, de ses défis personnels au cours des dernières années, 30 quelques dernières années de sa vie de maman et de ses intérêts pour bâtir l'émission. Merci d'être là.
Et ça me fait plaisir.
Faut dire que ça n'a pas été très, très long vous rendre, Yvonne.
Non, je suis partie de mon bureau.
Donc, quelques pas, quelques secondes pour vous joindre à nous ici en studio. Première fois.
Oui.
À la radio.
Il est temps.
Il est temps et ça se passera très, très bien, je vous l'assure. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente aux opérations chez Vues et Voix. C'est pour ça que l'on se connaît. Également, maman de Paul-André et de Vincent. J'ai leur photo, le portrait de famille qui circule déjà sur nos différents médias. Yvonne, qui, assez rapidement, donne le ton sur la personnalité de vos fils et leurs intérêts. Paul-André, viking?
Oui. Bien, en fait, mes deux fils, vikings, bien, pour les photos, Paul-André, c'est une passion qu'il a depuis qu'il est adolescent, qui faisait la lecture à Vincent des livres dont il était le héros. Alors, il s'est impliqué avec ses trois fils maintenant à son tour, où il participe à Bicolline, qui est une vie communautaire de vikings. Et Vincent s'est joint à cette communauté-là aussi pour les activités. Et ça fait une très belle activité où Vincent se sent accueilli
et inclus.
Oui. Oui, et inclus. L'inclusion, c'est très important.
Vincent, on le voit sur cette photo avec un koala dans les bras suite à un voyage qu'il a fait il y a à peu près un an, Australie-Singapour. Une grosse étape dans votre vie de maman quand même.
Oui, c'était la première fois que Vincent partait. Il était déjà allé à Chicago seul, rencontrer des amis, mais là, de traverser le globe comme ça, c'était la première fois. C'est un ami d'enfance qui se mariait à Singapour et Vincent voulait réaliser son rêve d'aller voir le récif de corail en Australie.
Ouais. Gros défi, et on doit le dire, parce que Vincent vit avec un traumatisme crânio-cérébral depuis 30 ans maintenant, suite à un accident. Ça a bouleversé sa vie, la vôtre également, celle de vos proches. Et ça s'est passé comme ça se passe souvent, un bête accident, un grave accident. Vous étiez même pas là, à l'hôpital, vous, à ce moment-là, il se faisait garder. Qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là?
Mais mon fils aîné, Paul-André, il était arrivé de l'école et il avait demandé d'aller chez un de ses amis de l'autre côté de la rue. Alors, le mari de la gardienne est en train de faire traverser la rue à Paul-André et Vincent suivait. Et là, il y a une dame qui a pas vu Vincent. Et une chance qu'elle roulait pas vite parce que le pare-choc de l'auto est arrivé là, sur la tête de Vincent.
Donc, traumatologie, Charlemagne, hémorragie, comment pendant une semaine, un petit corps d'un petit garçon de 3 ans qui est tout branché, vous-même, qui est dans une période de la vie où la santé n'est pas au rendez-vous. Et il y a différents choix à ce moment-là qui se présentent. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une jeune maman, 27 ans, qui a à vivre ce genre d'étape-là de tragédie?
Je ne sais pas si je suis bien faite ou mal faite, mais un petit peu innocente et je vis d'espoir. J'écoute ce que les médecins ont à me dire. Mais je garde mes distances face à tout ce qui est négatif. Puis je pense que je suis comme ça dans la vie aussi en général. Alors, moi, je vis d'espoir et je me dis, bon, OK, on va prendre ça, on va traverser ce pont-là quand on va y arriver, puis on va prendre les étapes un à un. Puis il y a toujours plus qu'une solution à un problème. Fait que c'était vraiment ça, là, quelqu'un qui disait, bien, on ne sait pas s'il va sortir du coma. Après ça, bien, on ne sait pas s'il va marcher, s'il va parler. On veut l'envoyer à Marie-Enfant pour le... c'est pour le restant de sa vie, puis après ça, ça aurait été Rivière des Prairies ou un autre centre. Moi, c'était non. Après 2 mois, il revenait à la maison, il a commencé à revenir à la maison les fins de semaine, et là, graduellement, de plus en plus, et on l'a réintégré dans notre vie. Il est retourné chez la gardienne, j'allais à la piscine avec lui le dimanche, comme je faisais avec Paul André. On faisait des activités de famille, puis la vie continue.
Qu'est-ce qu'il a dû réapprendre, Vincent, au cours de la réadaptation? Ben, on rappelle qu'il n'avait que 3 ans ouais. aussi au moment de l'accident.
Alors, peut-être parce qu'il y avait 3 ans, c'était plus facile. Alors, il a commencé par ramper à plat ventre, comme un bébé, mm-hmm. avant d'être capable de s'asseoir. Après ça, ça a été peut-être 1 an avant qu'il soit capable de rester assis sur une chaise, parce qu'avant ça, il tombait. Il a fallu qu'il réapprenne à parler aussi, qu'il réapprenne à tout faire, là, à manger. C'était comme on partait avec un bébé naissant. Là.
Ouais. Ce qui se passe à ce moment-là de la vie d'une famille, d'une mère, c'est de se faire dire... Voilà ce que votre enfant est, mais on n'a aucune idée de ce qu'il deviendra. On n'a aucun indice par rapport à ça.
À ce moment-là, comme j'ai dit, on prend ça là, au jour le jour et on le traite comme n'importe quel autre enfant. Comme je dis, c'est peut-être un bien pour un mal qui avait 3 ans. Alors, je me disais, 3 ans, tout est possible. Il y a d'autres parties du cerveau qui peuvent se développer. Il faut dire, j'avais une amie qui était infirmière... qui connaissait bien mes enfants aussi. Puis,
il a été un ange un petit peu pour vous à ce moment-là.
Ah oui, vraiment, Loulou, c'était un ange pour moi, me guider, supporter, informer, encourager, puis de dire oui, tout est possible encore. Ouais.
Je vais un petit peu plus vite dans le temps ouais. pour amener au passage du secondaire aux études supérieures, au collégial, où Vincent a peut-être vécu une première grande difficulté, cette incapacité à accéder à des études peut-être plus complexes. Et à ce moment-là, il vit ça de façon très difficile et on y reviendra plus tard à l'émission. Et il vous dit « Je n'arriverai jamais à contribuer à cette société ». Vous lui répondez quoi à ce moment-là?
Je lui rappelle ce qui est arrivé quand il a reçu son diplôme du secondaire, parce que même le secondaire, c'était difficile. Il allait à l'école à peut-être 2 mois durant l'année. À part ça, c'est moi qui l'aidais. Il y avait des tuteurs et tout ça. Mais le jour où il a gradué, c'était dans une petite école, une école alternative, et il y avait 300 étudiants. Et de voir les parents et les étudiants debout, à applaudir Vincent pour son courage et sa détermination. Je dis, déjà là, tu as beaucoup contribué à la vie de tout le monde.
Oui. On l'a entendu tout à l'heure avec Nicolas Teresco, à quel point il peut y avoir des séquelles. C'est très variable selon le type de traumatisme que l'on a pu vivre, le type d'accident aussi. Pour Vincent, ça se manifeste comment, ces séquelles-là?
Je pense que la plus grosse séquelle, c'est la fatigabilité. Vincent a des capacités pour à peu près 1 heure par jour. Alors, en 1 heure, on ne fait pas grand-chose. Il y a une hémiparésie du côté gauche, alors que ce soit de la bouche, de l'œil, du bras, de la jambe, et ça augmente avec la fatigabilité. Il y a la dysphasie, la dysphasie, la dysgusie. Il y a beaucoup de séquelles, mais la plus contraignante, c'est vraiment la fatigabilité.
Oui. Il a eu ce souhait-là il y a 1 an à peu près de partir en voyage sans vous, sans personne. Bien sûr, il allait rejoindre des amis. C'était une façon aussi de se réaliser et de dire « je suis capable de faire ça ».
Tout à fait. C'était le rêve de sa vie, comme je disais, là, d'aller en Australie et de voir le grand corail. Il nous l'a annoncé en repas de famille. Et là, ma sœur, ma belle-sœur se sont tournées vers moi puis ont dit « Tu peux pas le laisser aller, il faut que tu l'empêches. » J'ai dit « J'ai jamais empêché Vincent de rien faire. » Alors, je vais l'aider à organiser ce voyage-là.
Ouais, je ne vais pas commencer aujourd'hui. Et tout à l'heure, on l'entendait, les personnes qui ont un traumatisme crânio-cérébral sont capables de grandes choses, de plein de choses. Il faut juste être réaliste dans les attentes.
Absolument. Il sait là, que quand il est en voyage, il doit se reposer. Mais tu sais, comme Nicolas disait, tout est adapté maintenant. À l'aéroport, il y a des services. Dans les hôtels, il y a des services. Partout où tu vas, il y a des services pour les personnes handicapées.
Oui.
Alors, c'est de bien planifier le voyage, puis de se lancer.
Oui, et de le faire. Il y a eu parfois des difficultés dans le parcours familial. Quand, par exemple, Vincent a eu cette difficulté avec les études, avec toute l'entrée au collégial, vous avez dû aller chercher de l'aide à ce moment-là pour mieux l'aider. Vers qui vous vous êtes tournée?
Bien, vers l'Association des traumatisés crâniens. Il y a un groupe de soutien de parents que je trouve qui est excellent. Les parents qui sont là, on peut y aller de façon régulière ou de façon sporadique, c'est de partager ce qu'on vit et d'écouter ce que les autres ont à dire. Des fois, c'est très différent, mais on s'entraide. Et c'est comme ça qu'on avance et qu'on trouve des solutions aussi, c'est en partageant. Ouais.
Pourquoi à ce moment-là, il y avait une espèce de vulnérabilité à peut-être aider Vincent ou du moins ce besoin-là d'aller chercher de l'aide ailleurs?
Mais c'est que Vincent... quand il s'est aperçu qu'il pouvait pas continuer ses études comme ses autres amis qui sont devenus ingénieurs, politiciens, en communication, etc., Vincent, il aurait aimé ça être en informatique.
Mm-hmm.
C'est vraiment sa passion, mais là, il était pas capable de continuer ses études. Alors, il a fait une dépression. Et là, tu dis, bon, est-ce que tu le laisses dans sa dépression un an, deux ans, trois ans, ou tu essaies de trouver des solutions? Qu'est-ce que tu fais avec ça?
Oui.
Alors, il a dû être médicamenté. Il prend toujours des médicaments, mais on s'en sort, on trouve des solutions, puis on passe à autre chose.
Oui. C'est pas pour rien hein, que vous êtes vice-directrice, aux opérations, tu sais, il y a un problème.
Il y a des solutions.
On doit aviser ce problème-là. Et il y a probablement dans la personnalité de Vincent quelque chose. On dit souvent la pomme tombe pas très loin de l'arbre. Il a beaucoup d'humour. Lorsqu'il joue avec ses neveux, qui arrivent à faire des choses que lui n'arrive pas, il peut en rire.
Ah ben oui. Un exemple, c'était le plus vieux, Jérémy, il était tout petit, il avait peut-être deux ans, puis il jouait à Monsieur Patate. Et Vincent, il avait de la difficulté là, à mettre les morceaux de Monsieur Patate. Puis quand il a réussi, Jérémy, il a dit, « Ben bravo, Vincent, continue! » Alors Vincent, j'ai trouvé ça très drôle là, que son neveu puisse l'encourager là, à faire Monsieur Patate.
Oui. Donc, de l'humour et cette façon, cette résilience-là aussi, qui était peut-être pas toujours évidente, Yvonne, parce qu'on ne l'a pas beaucoup abordé, on ne l'a pas dit, mais vous avez élevé vos fils de façon assez solitaire. Vous êtes une maman monoparentale. Ça a amené quoi comme difficulté dans le parcours?
Mais c'est de pas avoir justement personne avec qui partager.
Ouais.
De là l'importance. Puis ils nous le disent dès que l'enfant a un traumatisme crânien que 70 % des mariages vont se solder par un divorce parce que c'est un choc pour cette famille-là. Puis et des fois, il y a des gens qui sont pas capables de s'adapter à ça, de vivre avec l'enfant. Ouais. Tu sais, ça peut être... ils peuvent voir ça comme un échec plutôt que... Bon, la vie est différente, puis elle continue.
Parce que oui, il y a ce besoin-là de partager, je l'entends, je le comprends, mais parfois aussi de valider des décisions. Lorsque vous vous êtes retrouvé à Charlemagne avec un petit garçon de 3 ans qui est dans le coma depuis une semaine et on se dit, ben, on le débranche-tu? Bon, on l'a entendu tantôt, il y a eu cette force de caractère de dire non, mais personne avec qui valider ou encourager ou questionner la décision.
Et de là, d'aller chercher des ressources aussi.
Ouais, ouais.
C'est vraiment important.
Oui, et de partager, communiquer. La QTC, c'était aussi d'être en rapport avec des proches qui ont vécu des parcours similaires.
Oui, ils ont du vécu, ils ont les ressources. Maintenant, c'est différent. Comme il y a 30 ans, quand un enfant avait un accident, il attribuait pas tout de suite un travailleur social, puis donnait plein de... C'était comme Tu vas amener ton enfant chez toi, mais organise-toi. On sait que tu vas le ramener, là, puis que tu vas le placer.
Oui.
C'est plus la même chose maintenant, là. Alors, on a dû travailler fort, là, pour aller chercher les ressources.
Et la notion de deuil, de dire « mon fils ne sera jamais ce que j'aurais pu espérer, ou ce n'est pas l'enfant que je pensais ou l'homme qu'il allait devenir. Cette notion-là, est-ce qu'elle traverse la tête parfois?
Non, pas du tout, parce que on élève nos enfants.
Oui.
Et je fais le geste de lever mes mains. On élève notre enfant et on ne sait pas, peu importe l'enfant, que ce soit Paul André ou n'importe quel enfant, on ne sait pas ce qu'il va faire avec sa vie. C'est d'être disponible, de le guider comme on peut et d'espérer pour le mieux.
Oui.